et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
Les courses à Vincennes avec l'arrivée de la première, 7, 12, 10, 5 et 6. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de la rentrée des classes, l'école depuis 1945.
Fini les vacances, c'est la rentrée des classes.
Ça me fait plaisir quand même de revoir mes copains parce que ça fait longtemps que j'étais pas là.
Ans d'histoire. Les 57 000 écoles, 7 000 collèges et 4 000 lycées qui accueillent aujourd'hui 12 millions d'élèves n'ont plus grand-chose à voir avec l'école de Jules Ferry, celle dans laquelle les instituteurs de jadis apprenaient à des élèves attentifs l'orthographe, la lecture et leur faisaient réciter par cœur les tables de multiplication. On peut avoir, bien sûr, la nostalgie des plumes sergent-major, du bruit des craies sur les tableaux noirs et des blouses grises des écoliers d'autrefois, mais cette école a disparu depuis longtemps et les derniers qui s'en souviennent sont aujourd'hui à l'âge de la retraite. Ils n'ont plus en commun avec leurs enfants ou leurs petits-enfants que l'émotion, toujours la même, qu'on éprouve le jour de la rentrée des classes. Mais il y a 60 ans, on ne parlait pas encore de la violence, de la drogue, de l'illettrisme ou du port du voile dans les établissements scolaires. C'était en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
1er octobre, pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise, leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers et des souliers.
Antoine Pro, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de l'enseignement et de l'éducation. Vous voulez dire quelque chose sur ce qu'on vient d'entendre ?
Oh, c'est touchant, c'est vrai, parce que la guerre a été très dure pour les écoles, mais c'est vrai aussi que c'est un monde à jamais disparu. Mmh.
Parce que c'était il y a 60 ans, c'était en 45, le contexte était évidemment très différent, c'était la libération, c'était la fin de la guerre, alors qu'aujourd'hui, on vient de l'entendre dans les informations, ce sont les otages, c'est les preneurs d'otages qui exigent le retrait d'une loi sur le port du voile. Alors, le contexte a changé, mais il n'y a pas que le contexte, vous le rappelez dans un livre, justement Antoine Pro, qui vient d'être réédité chez Perrin, l'histoire de l'enseignement et de l'éducation. Il y a aussi l'école d'aujourd'hui n'a justement plus rien à voir avec celle que l'on vient d'entendre.
Il n'y a pas que l'école, la société d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1945 et c'est pour ça que l'école est différente. En 1945, une bonne moitié de la population vivait à la campagne. Vous avez cité le chiffre de 57 000 écoles, il y en avait plus à l'époque. Et parce qu'on a fermé beaucoup d'écoles à classe unique. Aujourd'hui, on a des groupes scolaires. Tout le monde passe CP, CE1, CE2, CM1, CM2. La classe unique, ou l'école à deux classes, les grands, puis les moyens et les petits, ça, c'était la règle générale en 1945. Puis c'était une période de pénurie. Ouais. Et puis, regardez, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de télévision. Non, tout a changé.
Alors justement, on va voir un peu, en survolant, bien sûr, ce qui s'est passé depuis 1945 avec l'école, dont vous ne séparez pas l'histoire, dans ce livre, de l'histoire ou de l'évolution de la société et de la famille. Vous venez de le dire, les trois agissent les unes sur les autres, au fond. L'histoire de l'école n'est pas indépendante de celle de la famille et de la société. Antoine Pro.
Ah ben, bien sûr que non. Elle n'est pas indépendante de l'histoire de la famille parce que la famille est aussi une instance éducative. Et la famille pratiquait un relatif dressage des enfants dans une époque où il y avait beaucoup de pénuries, où le travail des enfants était nécessaire pour garder les vaches, pour aller chercher de l'eau à la fontaine, pour aller chercher le bois, pour faire le feu, pour toutes ces tâches minimes, les enfants étaient contraints. Et donc l'autorité qui s'exerçait était une autorité, je dirais, liée à la survie de la famille. Regardez la façon dont on élève les nourrissons, moi je trouve ça tout à fait spectaculaire. Mais, aujourd'hui, l'éducation à la propreté se fait beaucoup plus tard qu'il y a 40 ans. Pourquoi se fait-elle plus tard? Parce qu'il y a maintenant, il y a les couches jetables, et la puériculture a totalement changé.
Alors, il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup, qui a considérablement modifié l'école, Antoine Prost, c'est l'augmentation d'abord des effectifs scolaires, qui est considérable. Hein. Je crois qu'on était à peu près à 6 millions d'élèves, universités comprises, au lendemain de la guerre. On en est à peu près à 14 millions. C'est une augmentation dont vous rappelez qu'elle n'est pas seulement due au baby-boom de l'après-guerre, parce qu'il y a aussi l'augmentation de la durée passée à l'école. Il y a eu l'augmentation, par exemple, de l'âge de l'obligation scolaire, qui est passé de 14 à 16 ans. Mais en quoi cette augmentation massive de la population scolaire, et notamment des élèves, a-t-elle contraint l'école à changer dans ses structures? On aurait pu se contenter d'augmenter le nombre d'établissements ou le nombre de professeurs.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Premièrement, l'augmentation des effectifs. Il y a deux augmentations des effectifs, une par le bas et une par le haut. Les effectifs ont beaucoup augmenté dans le primaire parce qu'aujourd'hui, 100% des élèves de 3 ans vont à l'école maternelle, ce qui n'était pas le cas avant 1960, loin de là. Et la France est d'ailleurs le seul pays au monde à avoir une telle préscolarisation. Et la préscolarisation, c'est la diffusion... de pratiquer la préscolarisation à 3 ans, c'est la diffusion de coutumes éducatives qui sont en totale rupture avec l'éducation familiale antérieure. Si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. Cette sorte de dressage des enfants, c'est en totale contradiction. Et du coup, les attitudes éducatives de la famille ont complètement changé. Ça, première chose. Deuxièmement, prolongation de la scolarité par l'autre bout, allongement de la scolarité, d'abord à 16 ans, et puis en fait aujourd'hui jusqu'à 18 ans. Ça, c'est lié aussi à l'évolution globale de l'économie. Autrefois, il y avait des places pour des gamins de 15-16 ans. Ils trouvaient des petits salaires, des petits boulots. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de saut ruisseau. Il n'y a plus de commis.
Le salaire de l'enfant n'est plus indispensable, comme c'était le cas à la famille.
Et puis en plus, les parents n'en ont plus besoin. Autrefois, c'était un rapport non négligeable. C'est pour ça que les enfants de mineurs descendaient à la mine à 14 ans.
Oui. Alors, le fait de même qu'on ait prolongé la scolarité a permis, effectivement, au-delà du primaire, a permis à des enfants qui n'avaient jamais accès de rester à l'école alors qu'ils l'a quitté à 14 ans avant. Alors, si il y a une démocratisation quand même qui s'est faite aussi.
Il y a une démocratisation, mais il y a surtout une transformation anthropologique. C'est-à-dire que actuellement, être élève, être lycéen, être étudiant, c'est un statut social. Et ce statut social, il est totalement nouveau et il définit un nouveau groupe avec des consommations propres. Et on peut dater d'ailleurs de Salut les copains, l'émergence de l'adolescence comme groupe social. Et la jeunesse en politique, c'est mai 68. Le tournant des années 60 est tout à fait décisif.
Et en fait, il y a eu un changement, c'est ce que vous voulez dire Antoine Prost, dans le statut, donc dans les rapports entre les enfants et leurs parents, entre les enfants aussi à l'école. Mais justement, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que la famille.
Salut les copains!
Certes, la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des caves enfumées, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golf Drouot, où les Johnny Hallyday, en puissance, viennent tenter leur chance. Le mal du siècle à la James Dean est mort avec les idoles d'hier. Les copains s'amusent sans arrière-pensée, expérimentent scrupuleusement toutes les danses nouvelles qu'on leur propose.
Mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien.
Et c'était bien sûr Sylvie Vartan dans les années 60, hein, les copains dont vous dites, Antoine Prost, qu'ils ont transformé l'école. Pourquoi avant les années 60, les enfants n'avaient pas de copains?
Si, ils avaient des copains, mais d'abord, avant les années 60, le passage de l'enfance à l'âge adulte se faisait de manière beaucoup plus structurée. vous aviez un franchissement de seuil avec le certificat d'études et la première communion solennelle. Après ce franchissement de seuil, vous étiez un jeune, c'est-à-dire que vous étiez au travail, vous gagniez votre vie, mais vous étiez soumis à l'autorité des parents. Et puis après, il y avait un autre seuil pour les garçons, qui était le service militaire. Après le service militaire, on se mariait, on s'établissait et on prenait son indépendance. Bon, maintenant, le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est un pan incliné, tout à fait progressif, il n'y a plus de seuil, il n'y a plus de communion solennelle, ou pratiquement pas, il n'y a plus de service militaire, et vous avez un ensemble intermédiaire qui se définit par son âge, par sa tenue vestimentaire. C'est vous faisiez chanter Sylvie Vartan tout à l'heure, vous auriez pu faire chanter Antoine. Ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux. C'est bon, c'est le jean unisexe, c'est le pullover ample, c'est les baskets, c'est la tenue des étudiants dans les rues de Paris en mai 68. Et en même temps, c'est une radio spéciale, ce sont des vêtements, c'est tout un commerce qui est aujourd'hui extrêmement important. Et c'est une musique particulière. C'est un discours. Et alors ça, si vous voulez, ça n'existait pas.
Les copains, d'ailleurs, c'est aussi des copines, Antoine Prost. C'est-à-dire que moi, j'ai connu une école où il n'y avait que des garçons ou que des filles dans les établissements scolaires. La mixité a dû être aussi un bouleversement considérable.
Ah ben, vous avez tout à fait raison. C'est un bouleversement qui se situe au même moment. Salut les copains, c'est 1962. À partir de 1959, l'éducation nationale ne construit plus d'établissements séparés pour les garçons et pour les filles. D'établissements distincts. Il faut dire d'ailleurs que la différence se limitait au sanitaire. Tout le reste était rigoureusement semblable. Donc, il n'y a pas eu à faire grand-chose pour unifier les constructions. Mais vous avez tout à fait raison. Et alors, il n'y a pas d'étude tout à fait précise sur ce que ça a changé. C'est un changement fondamental. C'est la première génération dans l'histoire de l'éducation où les sexes sont mélangés et les âges séparés. L'école de Jules Ferry, c'est une école où les sexes étaient séparés, mais où les âges étaient mélangés, où les petits, les moyens et les grands étaient ensemble, et où éventuellement les grands aidaient les petits à apprendre à lire ou à faire leurs devoirs. C'est tout à fait saisissant.
Mais alors justement, vous semblez dire, j'étais étonné en vous lisant, Antoine Prost, vous semblez dire qu'au fond l'école n'a pas su s'adapter à ça. Par exemple, mai 68, on s'en souvient, c'était une grande période de contestation des méthodes d'enseignement et notamment du fameux cours magistral dont vous dites qu'il est resté l'alpha et l'oméga au fond des professeurs. Autrement dit, l'école n'a même pas suivi.
Ah, non, un historien peut pas dire ça. L'école ne serait pas là, aujourd'hui, si elle n'avait pas suivi. Elle aurait disparu corps et bien. L'école s'est adaptée à nouveaux élèves. Vous avez eu de nouveaux profs, de nouveaux exercices. Non, il y a eu une adaptation pédagogique. Des exercices comme le résumé de texte, par exemple, qui est tout à fait classique au baccalauréat, c'est des exercices qui n'existaient pas avant 1969. Et qui se sont introduits dans les classes. C'est très intéressant de voir comment la novation pédagogique s'est faite dans ce cas-là. C'est les écoles de commerce qui ont commencé à utiliser ce type d'exercice pour sélectionner leurs candidats. Et cet exercice est remonté des concours des écoles de commerce vers les dissertations de première et de terminale.
Oui, mais on peut se demander quel en était le résultat. Et cela s'est fait quand même un peu aux dépens de méthodes assez plus traditionnelles, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de ministres de l'éducation ont voulu revenir. Hein. Je pense à Jean-Pierre Chevènement qui limitait l'objectif de l'école à apprendre à lire, à écrire et à compter. Ou encore à ce que disait Naguère, à ce que disait ce matin, pardon, encore au moment de la rentrée, le ministre actuel de l'Éducation nationale, François Fillon.
Ce que je veux réhabiliter, c'est les exercices personnels qui permettent à chacun de maîtriser la langue. Il n'y a pas assez d'exercices personnels répétitifs, d'entraînement pour permettre aux enfants de maîtriser la langue. Alors, si certains trouvent la dictée ringard, c'est leur problème, et je ne préconise pas seulement le recours à la dictée, je préconise le recours à tous ces exercices personnels répétés, qui permettent de s'entraîner, qui permettent de s'améliorer. Un pianiste, pour être virtuose, il faut qu'il fasse tous les jours des exercices. Et ben, pour les élèves, c'est la même chose.
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Moutons, voyons mon enfant, je dis, moutons étaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Deux et deux, quatre, quatre et quatre, des huit françaises. Répétez, dit le maître.
2 et 2, 4, 4, 4, 8, et 8 françaises. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant.
2 et 2, 4, répétez, dit le maître.
Et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui.
4 et 4, 8, et 8 et 8 font 16.
Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font?
Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas 32. De toute façon, ils s'en vont.
Et l'enfant a caché l'oiseau.
Vous écoutez France Inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui, l'école depuis 1945, et cette chanson de Jacques Prévert, la page d'écriture, chantée par les frères Jacques. Qu'est-ce que vous pensez, Antoine Pro, justement, et non seulement de cette chanson, ou encore de Louis Jouvet qu'on a entendu à l'instant dans cet extrait de Topaz, mais aussi des propos de François Fillon sur le retour à des méthodes traditionnelles? Il parlait non seulement d'ailleurs de la dictée, mais il évoquait, on n'a pas entendu, un retour à l'autorité des professeurs, comme si elle était remise en cause.
Oui,
c'est une régression, et est-ce que si c'est une régression, elle est inutile?
C'est pas une régression, c'est une évidence. Je suis pas d'accord avec François Fillon quand il croit à l'efficacité des redoublements. Je ne suis pas non plus d'accord avec les discours pessimistes qui sont pas les siens nécessairement, mais qui sont en vigueur dans notre société sur la baisse, le recul de l'enseignement primaire. Je note simplement qu'on dispose aujourd'hui d'évaluations régulières CE2 6e qui permettent de mesurer de façon fiable le niveau des élèves. Il y a des variations annuelles très fortes, mais dans l'ensemble, c'est stable. Or, depuis 10-15 ans, le niveau des redoublements a diminué de moitié dans l'école primaire. Ça n'a pas fait fléchir le niveau qui est mesuré à l'entrée en sixième. Depuis 15 ans, on est passé en gros de 400 000 élèves en classe de perfectionnement filière marginalisée à 200 000. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 élèves qu'on jugeait incapables de suivre l'école qu'on a mis dans le circuit. On a rajouté de l'eau froide et la température est toujours la même. Donc l'efficacité ne s'est pas.
Oui, mais ça c'est sur le redoublement. Je voudrais que vous répondiez sur justement le retour, la dictée. D'ailleurs, beaucoup de professeurs disent mais au fond, les dictées ont continué d'en faire.
Ce que dit François Fillon est évident, et il ne faut pas dire qu'il a tort. Ce qui est essentiel, c'est le travail de l'élève. On ne forme pas un élève du dehors, il faut qu'il se forme lui-même. C'est lui qui apprend, c'est pas le maître.
Fillon parlait des exercices individuels.
Et Fillon parle des exercices individuels, il n'y a pas... Quand j'ai fait un rapport pour Savary, nous l'avons intitulé « Les lycées et leurs études ». Ce qui est essentiel, c'est qu'on étudie, c'est qu'on travaille. Mais alors, si on veut que les élèves travaillent, il faut poser aussitôt la question du sens de l'exercice qu'on leur propose, parce qu'un élève n'est pas idiot, il ne peut pas faire bien un exercice qui n'a pas de sens. Et il y a des exercices répétitifs nécessaires, mais encore faut-il qu'ils aient un sens. Et il faut aussi qu'ils soient gradués. François Fillon prend l'exemple du piano. On ne commence pas à étudier le piano avec les études de Chopin. Mais dans l'enseignement français, on met toujours les études de Chopin en sixième, dans les disciplines abstraites. On commence avec des programmes beaucoup trop ambitieux. Et les programmes trop ambitieux sont contre-productifs. Parce que si vous demandez à un élève quelque chose qui est trop dur pour lui, trop difficile au niveau où il en est, il ne peut pas le faire bien et vous ne pouvez pas l'évaluer.
L'absence de maîtrise de la langue française, vous êtes d'accord, Antoine Pro, et d'où sur cette nécessité aussi de ce qu'évoquait François Fillon, le retour un peu, ou en tout cas le maintien de la dictée. Mais on a l'impression quand même que dans bien des domaines, malgré des réformes, et on ne les cite pas, vous ne les citez pas dans votre livre, parce qu'il y en a tellement qu'on y passerait toute l'émission, qui d'ailleurs, à laquelle il ne reste que quelques minutes, mais en revanche, on a l'impression que ça a servi à rien, que l'école a fait faillite, aussi bien dans sa mission d'instruction, que dans sa mission d'éducation. L'illettrisme, je le citais tout à l'heure, il y a l'échec scolaire, la violence aussi à l'école, la persistance des inégalités, la dégradation aussi de l'autorité des professeurs.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce diagnostic pessimiste. Je ne suis pas non plus d'un optimisme forcené, mais je dis que l'école se bat, et qu'elle se bat bien, et avec des résultats. C'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas encore lu, ce que dit Hervé Hamon dans son dernier livre, « Tant qu'il y aura des élèves ». Vous voyez, du point de vue des résultats, du point de vue du niveau, l'école a encaissé l'afflux massif des élèves au niveau du collège et au niveau du lycée, sans compromettre nullement la formation des élites. Donc c'est plutôt un succès. Et du point de vue de l'intégration quel plus bel éloge de la vertu intégrative de l'école républicaine que les déclarations auxquelles nous assistons en ce moment dans la conjecture dramatique de prise d'otage.
Justement, effectivement, il s'agit là d'un nouveau problème auquel sont confrontés les professeurs. Je propose d'écouter, alors qu'en ce moment, il y a deux otages français qui sont détenus en otage par une organisation qui veut l'abolition du voile à l'école, écoutez justement ce qui se passait ce matin dans une école de Toulouse, France Inter, à 8h, Patrick Roger.
Pas de provocation, c'est le maître mot ce matin dans les cours d'école, une volonté d'apaisement dans le monde de l'éducation, comme chez les religieux. Exemple au collège Bellefontaine de Toulouse, où la principale Liliane, Chanson Fischbach, a donné ses consignes hier lors d'une sorte de répétition générale.
Je souhaite que lorsque je ferai l'appel, si parmi vos élèves, nous avons une élève ou un élève ou une maman qui vient accompagnée d'une jeune fille qui aurait, comme l'année dernière ça s'est produit, un voile sur la tête. Mais je vous demanderai à ce moment-là de dire, les professeurs principaux, vous serez au premier rang, de dire, madame, monsieur et l'enfant, veuillez bien vous rendre devant le bureau du principal qui va vous recevoir. Voilà, je souhaiterais que ces enfants ne soient pas mis à l'index, ni dans la cour, ni dans les couloirs, ni dans vos cours.
C'était la principale d'un collège de Toulouse. J'ai dit à l'instant que l'organisation qui détient les otages veut l'abolition du voile. C'est bien sûr l'abolition de la loi sur le voile, d'ailleurs, qui est une loi sur le voile, mais qui est une loi sur les signes ostensibles, les signes religieux ostensibles dans des écoles laïques. C'est quand même un problème tout à fait nouveau, impensable, il y a 45 ans, Antoine Prost, cette affaire du voile. Ça montre en quoi c'est la société, effectivement, qui a changé, plus encore que l'école, qui essaie de maintenir la laïcité.
Oui, enfin, le contexte a évidemment changé. Un historien ne peut pas vous dire que 1904 et 2004, c'est pareil. Mais fondamentalement, c'est la même démarche qui a fait enlever le crucifix dans les écoles publiques. Pourquoi on a enlevé le crucifix dans les écoles publiques? Pourquoi on dit aujourd'hui qu'il ne faut pas de voile dans l'école publique? C'est parce que l'école publique, elle n'enseigne pas au nom du gouvernement, elle n'enseigne pas au nom de l'État, elle enseigne au nom de la raison. Et si vous voulez développer la raison, travailler rationnellement, logiquement à la découverte de la vérité, il faut commencer par laisser au vestiaire les dogmes, les croyances, les superstitions, même les croyances légitimes. Mais on les met entre parenthèses provisoirement pour exercer sa raison. Et pour les catholiques comme pour les musulmans, la raison est quand même donnée par Dieu. Si on exerce logiquement la raison, on ne peut pas aboutir à de mauvais résultats.
Mais là, vous défendez l'école de Jules Ferry, dont vous dites qu'elle n'existe plus.
Ah, moi, non, je ne défends pas l'école de Jules Ferry, je défends un principe. C'est que si vous abandonnez, et c'est d'ailleurs le rôle fondamental, un des rôles fondamentaux de l'école aujourd'hui, c'est de se battre pour le rationalisme. Vous avez, la façon dont les gens se fient aux horoscopes, la façon dont les gens se fient aux rebouteux, aux gourous qui lisent la bonne aventure, la façon dont des remèdes de mistigrie font fortune, c'est insensé. Il y a un recul de l'esprit rationnel qui est d'ailleurs à la base du recul des motivations pour la science. Et ça, je trouve que pour une société comme la nôtre, c'est un tournant extrêmement, extrêmement grave.
Alors, autre problème qui préoccupe aujourd'hui les enseignants, c'est pas tellement une nouvelle réforme qui est attendue d'ailleurs pour la fin de l'année, hein, qui sera une loi Fillon dont on ignore encore le contenu, mais c'est aussi une question de moyens, avec un budget et des effectifs qui sont en baisse. Mais est-ce que la solution, au fond, aux difficultés de l'école, c'est une question de moyens après tout? Les moyens n'ont jamais cessé d'augmenter, Antoine Prost, même quand les effectifs ont commencé à baisser au début des années 90. Je crois que de 94 à 2004, l'ensemble des écoles, collèges et lycées a vu leurs effectifs diminuer de 280 000 élèves, alors que le nombre des professeurs a augmenté de 18 000. Bon, certes, maintenant, cette année, je crois qu'on va les réduire d'environ 3 000, mais est-ce que c'est une question de moyens, selon vous, et de nombre de professeurs?
Fondamentalement, non. Fondamentalement, non. J'ai été le conseiller de Michel Rocard il y a très longtemps, quand il était à Matignon, et en deux ans et demi, le budget de l'éducation nationale est passé de 290 milliards de francs à presque 350.
Donc, c'est le premier budget de l'État, ça n'a pas toujours été le cas. Oui.
C'est le premier budget de l'État. Et on est loin, ça coûte beaucoup plus cher que les cuirassés nucléaires ou pas nucléaires. Et Michel Rocard me demandait, quelle différence pour les parents? Qu'est-ce que les parents d'élèves ont vu de différent et de meilleur? Il faut bien dire qu'on a mis 50 milliards dans l'éducation nationale et que, si, il s'est passé des choses. Il s'est passé, par exemple, qu'on a pu accueillir 300 000 étudiants en plus sans avoir de crise majeure comme en 1968. Mais c'est vrai que c'est pas fondamentalement un problème de moyens. C'est vrai.
Car vous justifiez les économies qui sont faites en ce moment, Antoine Pro?
D'une certaine manière, c'est dans l'épaisseur du trait par rapport à un budget qui est aussi haut. Non, il y a une chose qui est importante dans l'éducation nationale et dont personne ne s'occupe, c'est de faire marcher la boutique. C'est de gérer correctement au jour le jour l'éducation nationale. Et ça c'est un vrai problème, parce que vous avez beaucoup de mini-blocages qui pourraient se résoudre par une action administrative quotidienne, continue, dans la continuité. Et là, on a beaucoup trop de ministres qui se succèdent et qui veulent chacun laisser leur trace en attachant leur nom à une réforme. Il faut plus faire de réforme de l'éducation nationale, mais il faut la gérer sérieusement. Donc, on peut pas fonctionner sans un secrétaire général de l'éducation nationale, ou peut-être qu'il faut retrouver une autre structure au niveau des rectorats, mais ça ne peut pas... Les dysfonctionnements, c'est avant tout un problème de gestion.
Merci Antoine Pro, en tout cas, de nous avoir rappelé en quoi évoluait cette école et comment depuis 1945. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'enseignement et l'éducation depuis 1930, réédité chez Perrin dans les collections de Poche Timpus. Cette collection qui a d'ailleurs publié, je crois, 3 autres volumes sur l'histoire générale de l'enseignement depuis l'origine de l'école. Également à recommander L'âge d'or du tableau noir de Christian Crumb, une anthologie littéraire publiée aux Belles Lettres qui sera en vente le 16 septembre. Vous avez pu entendre des Archives pâtées de 1945 et 1963, extraites du journal de votre année, distribuées en cassette vidéo chez Montparnasse Vidéo, ainsi qu'un extrait bien sûr de Topaz avec Louis Jouvet. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant